Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Pierre Ouverte. On se retrouve cette semaine toujours dans la série Le Lot, c'est tout un art, en compagnie d'Adrien Fabre. Bonjour Adrien.
Bonjour.
Alors Adrien, aujourd'hui nous allons parler de trois figures artistiques qui ont participé à la renommée du Lot. La première de ces figures, c'est Ozip Zadkine, dont j'ai déjà moi-même parlé dans une émission. Mais on va quand même rappeler qui est Zadkine.
Alors oui, Zadkine, c'est un artiste russe. Il est connu surtout pour ses talents de sculpteur. Il est né en Russie en 1890 et il est mort en 1967. Alors, il est considéré comme l'un des plus grands maîtres de la sculpture cubiste aussi. Et il a une très grosse production artistique qui s'échelonne sur un demi-siècle. Elle comprend plus de 400 sculptures, des milliers de dessins, aquarelles, gouaches, gravures, illustrations de livres, cartons de tapisserie. Il faisait beaucoup de choses, mais il est surtout connu pour être sculpteur.
Et comment il est devenu sculpteur ?
Alors comment il est devenu sculpteur ? L'amour pour la sculpture est venu très jeune. Il a grandi en Russie, dans une région faite d'immenses forêts, où il y a grands paysages, il se baladait beaucoup. Et ça, il raconte notamment dans une anecdote, dans son discours qu'il fait à la réception à l'Académie flamande des Beaux-Arts en 1951, comment je suis devenu sculpteur. Il explique par une petite anecdote sympa, quand il était enfant, une petite balade, il est tombé dans la rivière, il est tombé dans la boue, il a mis les mains dans la glaise, et c'est là que l'amour vraiment de la matière, de la sculpture, lui est venu.
Donc il quitte d'abord la Russie au début du XXe siècle pour Londres et ensuite Paris, où il rencontre beaucoup de monde dans la capitale, donc Max Jacob, Modigliani, Archipenko, Brancusi. Comment est-ce qu'il évolue dans ce milieu parisien ?
Ouais, en fait c'est ça, il fait une première tentative d'émancipation à Londres en 1906 et en 1908, et ça confirme vraiment sa passion pour la sculpture, en particulier pour la taille directe. Il choisit finalement la France comme nouvelle patrie et il arrive à Paris en 1909. Il faut savoir qu'il ne parle pas un mot de français. Il apprend la langue très vite, la pratique notamment, et il adore les mots, il adore les phrases. Il est aussi un bon poète. D'ailleurs, Max Jacob le reconnaît en lui un très grand poète. Il fait grandir son talent, en fait, dans cette Paris de l'époque, et il se fait connaître dans le milieu, aussi par sa joie de vivre, par la force de sa jeunesse et les facultés de création, d'adaptation qu'il a, qui sont d'ailleurs très sollicitées. Il se retrouve alors, du coup, au centre du rayonnement artistique intellectuel international à Montparnasse. Théâtre, soirées littéraires, cénacles poétiques, concerts, expositions, etc.
Et il découvre le Quercy avant de découvrir le Lot.
C'est ça. C'est la Première Guerre mondiale, en fait, qui va l'amener à découvrir plus tard le Quercy. Il s'engage en 1915 en tant que brancardier. Il est gazé en 1916 et en 1917, il est réformé. Il est de retour alors à Paris, nouveau dans sa vie d'artiste, il fréquente ses mêmes amis, mais il est surtout en mauvaise santé en temps de restriction. C'est là qu'intervient son ami peintre aussi, Henri Aramé, qui lui connaît bien le village de Bruniquel dans le Tarn-et-Garonne. Il a une maison, il en parle souvent. Et Zadkine, il demande s'il pourrait pas aller sur place et peut-être se ressourcer un petit peu, ce qu'il fait. Il va tomber tout de suite amoureux de ces paysages rustiques, de ces petits villages, et il se marie notamment avec Alantin Prax, une jeune femme rencontrée à Bonn, qui est elle aussi peintre, à Bruniquel. Il s'installe ensuite entre 1923 et 1934 à Caylus, et ils arrivent dans l'Hôte en 1934, dans le village des Arcs. Ils sont séduits tout de suite par ce petit village de Bourgogne.
Et donc c'est aux Arcs qu'il crée, malgré le fait qu'il voyage entre Paris et cet atelier-là, il crée Daphné et son Christ. Comment est-ce qu'il procède pour ses créations ?
C'est ça. Alors, du moment où il s'installe dans les Arcs, sa vie est vacillée entre Paris, son atelier rue Azas et sa maison aux Arcs. Comme vous l'avez dit, c'est là où il a une grande création artistique. Il sculpte Daphné, un de ses Christs, et ses sculptures monumentales. Il est fait dans des souches d'arbres qu'il a trouvées pendant des balades dans le paysage lotois. Et un bois qu'il choisit toujours mort. Il aime pas qu'on fasse abattre un arbre, que l'arbre souffre. Toujours un arbre mort. Ce qu'il fait, c'est ce Christ et cette Daphné, ce sont des sujets assez religieux, ou plutôt mythologiques aussi. Il adore le sacré. Il est fait dans des souches d'arbres morts, souvent des ormeaux. Et il privilégie la taille directe. En fait, il dessine sur le bloc de bois avant toute intervention du ciseau. Et après, il s'attaque à sa sculpture.
Donc en 1941, il y a un journal qui publie la liste des artistes juifs parmi lesquels il figure. Et il prend la décision de fuir aux États-Unis. Il prépare lors de cet exil la grande prisonnière qui prend place aujourd'hui entre l'atelier des Arcs et l'église du village. Que représente cette œuvre ?
Oui, alors c'est dans cette longue période d'exil, le Quercy et plus particulièrement les Arcs le manquent beaucoup, surtout les paysages aussi. Et c'est là qu'il prépare, bon, parmi d'autres sculptures bien sûr, cette grande prisonnière. Cette œuvre, en fait, c'est une sorte d'allégorie de la France enfermée dans une cage, peut-être une prison. C'est vraiment un manifeste phare de son exil à New York. Et d'après le catalogue du musée Zadkine, on nous dit que c'est vraiment une espérance de liberté, par-delà le cri du bannissement funeste de ce déraciné si douloureux, en fait.
Et comment il l'a ancré, comment cette œuvre, elle ancre l'artiste dans le paysage ?
Elle prend place aujourd'hui dans le paysage rustique du village, en fait. Elle est entre le parvis de l'église Saint-Laurent et le musée Zadkine. Et elle fait partie d'un ensemble. On retrouve aussi l'arbre des grâces, le grand messager, l'arlequin hurlant, l'autophage. Et tout cet ensemble de sculptures qui sont réalisées après le retour d'Ossip Zadkine, sauf pour la grande prisonnière entre 53 et 63, elle fait partie du paysage du village, du paysage rustique, parce que c'est un petit village, on tombe forcément dessus. Très intéressant, allez voir.
Et donc après la guerre, il se replonge dans son travail et c'est de nouveau un Christ qu'il produit et la fameuse Pietà qui se trouve dans la crypte de l'église Saint-Laurent. Et donc il avait un intérêt pour ce monument et puis plus largement pour le patrimoine. Pour le patrimoine.
Oui, c'est ça. Il a un goût prononcé pour les monuments sacrés, pour le patrimoine en général. Et l'église des Arcs, on peut d'ailleurs, faut savoir qu'elle a été classée monument historique en 1959. Et à sa demande, Ossip Zadkine y fait appel à André Malraux pour entreprendre une campagne de restauration. C'est vraiment une passion qu'il a pour le patrimoine qui se retrouve réellement dans son art.
Donc Zadkine, en 1967, il tombe malade et il meurt à Paris. Mais avant de mourir, il exprime un souhait pour sa maison des Arcs. Et quel est ce souhait ?
Oui, il voulait que sa maison aux Arcs soit transformée en musée et que son atelier à Paris, ça soit plutôt pour une période d'essai, soit un musée complémentaire du musée des Arcs, soit une fondation qui aurait permis à de jeunes artistes de venir travailler à Paris. Sa femme, Valentine Price, elle en décide autrement. La maison des Arcs passe dans des mains privées et un musée est créé à Paris. Et finalement, c'est le musée Zadkine des Arcs qui voit le jour en 1988, une décision du Conseil Général pour aller de pair avec les volontés de l'artiste.
Donc la deuxième figure sur laquelle vous avez travaillé, c'est l'Outre-Bé, Marc-Antoine Bissière, fils de Roger Bissière, lui-même artiste. Pourquoi est-ce qu'il se fait appeler l'Outre ?
Oui, alors l'Outre-Bé, c'est un artiste, peintre, sculpteur, fils de Roger Bissière, très connu. Et il se fait appeler l'Outre. Bon, son surnom, en fait, lui vient de son père, parce qu'à sa naissance, il avait beaucoup de cheveux et une tête ronde à l'instar d'une loutre, d'où le surnom qui lui a été donné.
Donc en fait, grâce à son père, Roger Bissière, il baigne dans l'art dès son enfance. Il est même initié à la fresque directement par son père, à Bois-Sirette, c'est un lieu dit de la commune de Marmignac. Qu'est-ce qu'il découvre dans ce petit hameau ?
Mais ce qu'il découvre, c'est surtout la nature, le travail de la terre, et il fait grandir un très grand amour pour les traditions rurales et les paysages de la région. Après, il commence véritablement à peindre en 1942, et il travaille beaucoup avec son père au début aussi.
C'est quoi les inspirations de l'Outre-Bé ?
Alors, il s'inspire de beaucoup de choses, de beaucoup de courants artistiques, comme tout ce qui est l'art roman, certains impressionnistes, l'art populaire, les fauves, mais aussi les icônes et l'artisanat paysan, comme des poteries, des vieilles horloges. Il s'essaye à plusieurs techniques, et son travail il est en constante évolution. Dans un premier temps, plutôt proche de l'abstraction. Après, ça se transforme plutôt sur une forme de figuration qu'il décline et réactive par cycle.
L'Outre-Bé, il sculpte aussi et choisit des matériaux pauvres comme le béton, le bois. Est-ce que vous avez des exemples de sculptures dont vous aimeriez nous parler ?
Oui, c'est vrai qu'il utilise des matériaux pauvres, entre guillemets, on peut appeler ça, notamment l'utilisation de l'acrylique, caractéristique de l'artiste. Ces matériaux, comme le béton, par exemple, au lieu du marbre, notamment dans sa sculpture, douce sculpture monumentale qu'il fait à Bois-Sirette. C'est une sculpture qui est faite en 1966, c'est après le décès de son père, Roger Bissière, qui est mort en 1964. Pendant un an, il fait sa sculpture et c'est un peu, on pourrait mettre l'hypothèse que c'est une sorte d'accomplissement d'un deuil qu'il représente dans ce jardin de Bois-Sirette.
Et il participe aussi au 1% artistique, donc cette volonté de soutenir la création et de sensibiliser à l'art qui est c'est une procédure spécifique de commande d'œuvres à des artistes. Avec quelle œuvre il participe ?
Il en a fait plusieurs, mais une des plus connues, c'est les 5 sculptures dans un jardin de pierre qui se trouve à Bois-Sirette. Elles s'inscrivent vraiment dans le paysage. Il a fait en sorte que ça se voit avec les collines alentour, même si aujourd'hui des nouveaux bâtiments ont été faits et on perd un peu cet usage, mais très intéressant à aller voir aussi.
Et troisième figure sur laquelle vos travaux ont porté, Eugène Pujol. Il est originaire de Carbonne, près de Toulouse. Comment est-ce qu'il arrive dans le Lot ?
C'est ça, Eugène Pujol qui est né en 1899. Il fait sa première peinture, c'est la campagne toulousaine en 1911. Alors il fait les Beaux-Arts à Toulouse, il fait les Beaux-Arts à Paris aussi après, l'école du Louvre. Et avec son diplôme, il est embauché à Fougères, en Bretagne. Et jusqu'en 1925, où là il s'installe et travaille à Cahors après sa nomination. Bon, 1929, il épouse une cadurcienne. 1930, il repart à Paris et finalement il revient s'installer dans le Lot.
À quel courant artistique est-ce qu'on peut le rattacher, Eugène Pujol ?
Alors, Eugène Pujol, c'est surtout un peintre réaliste. Lui, il travaille beaucoup la lumière, les couleurs, les jeux d'ombre, quelque chose de très réaliste. Il essaie de montrer vraiment la perfection, la réalité, même s'il y a quelques touches impressionnistes qui se retrouvent, comme le travail de la lumière et les aspects mouvants de la nature.
Et c'est un peintre de paysage.
C'est un peintre de paysage. Il a fait beaucoup de portraits aussi, mais il a fait beaucoup de paysages très intéressants, qui donnent vraiment un rendu mêlant réalisme et luminosité. On peut faire une petite citation, notamment d'Henri Mesplé dans un catalogue, qui dit que regarder un tableau d'Eugène Pujol, c'est peut-être être invité à pénétrer dans une initiation au mystère de la pénombre et en oxymoron à ceux de la clarté.
Et donc il a aussi présenté des monuments cadurciens et surtout le pont Valentré, qu'il a de nombreuses fois exécuté entre 1929 et 65. Et en quoi ces représentations sont différentes de celles des autres artistes évoqués ?
Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de représentations du pont Valentré, notamment on peut parler des tableaux de Franck Bongouin de 1910, 1915, Pierre Dora aussi. Lui, il le fait d'une manière assez discrète, où le pont se retrouve à sa place et il ne déborde pas du cadre.
Merci Adrien d'avoir présenté ces trois figures que nous retrouvons donc dans l'exposition Le Lot, Terre de Création.
Avec plaisir.
Dans quelques semaines. Et à la semaine prochaine dans la série Le Lot, c'est tout un art.
Merci, au revoir.